L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. On parle beaucoup de genre. On parle de masculin, de féminin, d'homme, de femme, de mâle, de femelle. Mais en réalité, on ne sait jamais vraiment de quoi on parle. On parle beaucoup de croyances, on s'appuie sur des livres. Et en fait, il faut savoir que la majorité de nos croyances, de ce que l'on sait, viennent des primatologues, c'est-à-dire des personnes qui étudient les primates, et donc principalement les singes. Et mon invité du jour, Frans de Waal, c'est sans doute l'un des primatologues les plus connus au monde. On lui doit entre autres le concept d'alpha, d'homme alpha, et malheureusement ça a été mal traduit, ou en tout cas ça a été mal compris. Il en a fait un TED Talk, qui est passionnant d'ailleurs. Et il a écrit un livre sur le genre qui s'appelle « Différent ». Donc le titre dit déjà la manière dont il aborde le sujet, et pourtant vous allez voir que c'est plein de nuances, et c'est passionnant. C'est sans doute l'un des livres, voire le livre le plus intéressant que j'ai lu cette année. C'est très puissant sur différents niveaux, et avec Frans, on va parler de sexualité, on va parler de la relation entre les mâles, on va parler de la relation entre les femelles, on va parler d'éducation, on va parler d'éducation des hommes, on va parler de l'instinct maternel, on va parler du viol, de la culture du viol, on va parler de sororité, on va parler de patriarcat. Bref, c'est un épisode qui est extrêmement dense, et Frans, qui est néerlandais, nous fait le grand plaisir de le faire en français. Évidemment, on aurait pu le faire en anglais, ça aurait été beaucoup plus simple pour lui, mais vraiment, je trouve que c'est génial qu'il soit rendu accessible en français. Donc j'espère que vous allez, vous aussi, adorer cet épisode. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Frans.
Bonjour.
Comment vous allez aujourd'hui ?
Ça va très bien.
Ça va bien. La première question que j'ai pour vous, sans doute, c'est de me dire le rôle des primatologues dans la compréhension des humains et plus spécifiquement du genre.
Oui. Nous sommes des primates. Alors, les primatologues, en fait, les psychologues sont aussi des primatologues dans un sens. Et on peut comparer l'homme avec d'autres primates, surtout les chimpanzés et les bonobos, qui sont les plus proches de nous. Il y a bien sûr une évolution de 6 millions d'années séparées que nous, on a eue et on a changé. On n'est pas exactement pareil que eux, ça c'est clair. Mais pour une discussion de genre, moi je crois que c'est intéressant de connaître le mâle, femelle et toutes les autres variabilités qui existent chez les autres primates. Moi, je crois que si, par exemple, une différence entre mâle et femelle est universelle chez l'homme et est trouvée dans beaucoup de primates, c'est presque sûr qu'il y a un côté biologique là-dedans.
Et vous parlez aussi des primatologues femmes. Quel est le rôle qu'elles ont eu dans l'évolution de la compréhension du genre ?
Oui, c'est intéressant parce que quand j'étais étudiant, il y avait presque que de l'homme dans la primatologie. Et les femmes sont venues dans les années 60-70, quand j'étais encore étudiant. Ils n'ont pas changé le travail scientifique, mais ils ont changé le sujet. Et ils étaient intéressés dans d'autres choses. Par exemple, les hommes primatologues, ils étaient surtout intéressés dans la violence, la dominance des mâles. Ils disaient que les mâles organisaient les sociétés primates et tout ça. Ils avaient quelquefois des vues très primitive dans mon opinion de différence entre mâle et femelle. Quand les femmes sont venues, ils étaient intéressés dans le lien entre les femelles, ils étaient intéressés en female choice, ça veut dire le choix de partenaire fait par les femelles, pas par le mâle. Ils étaient intéressés dans les jeunes et comment ils étaient élevés, tout ça. Ils ont changé le sujet. Et c'était positif dans le sens qu'on a une vision de société primate qui est plus complète, je trouve, maintenant qu'autrefois.
Vous avez écrit « On est avec un sexe, mais pas avec un genre » dans le livre. Mm-hmm. Et je voudrais savoir, du coup, pourquoi vous avez appelé votre livre « Différent » ?
Oui, j'ai utilisé le nom différent parce que quelquefois les gens veulent éliminer les différences de genre. Et par exemple, il y a tout un mouvement d'élever les enfants gender neutral qui, je trouve, c'est un peu bizarre parce qu'on est né avec un genre et on en est avec une identité de genre. Et je trouve que les différences entre mâle, femelle ou hommes-femmes sont importants, il ne faut pas le nier. Même si je trouve que souvent les différences qu'on propose n'existent pas, ou les différences qu'on assume qu'existent chez les primates n'existent pas non plus, quelquefois. Et dans un sens, il y a moins de différences que les gens pensent. Dans un autre côté, il ne faut pas nier les différences qui existent.
Donc vous diriez que on est avec un cerveau qui est genré, quelque part ?
Il y a une identité. Les enfants sont nés avec une identité de genre. On a toute cette discussion sur les gens transgenres. Il y a une étude récemment aux États-Unis qui montre que les enfants, d'abord, les enfants, ils ont leur identité transgenre très jeune, 4 ans, 5 ans, quelquefois plus jeune que ça. Et ils ne changent pas d'opinion. Il y a seulement 2,5% qui, 6 ans plus tard, ont changé d'avis. Ça veut dire que la plupart, quand ils disent, quand ils sont nés comme un petit garçon, imagine, ils disent « je suis une fille », ils ne vont pas changer d'opinion. Même si toute la famille, et l'école et tout le monde essaient de le convaincre qu'ils ne sont pas ce qu'ils disent qu'ils sont. Alors, ça veut dire que c'est très résistant, ça arrive très tôt. Ça veut dire que l'identité transgenre est biologique, dans mon opinion. Mais c'est aussi vrai pour les identités d'autres gens. Quand toi, tu as une identité d'homme, par exemple, tu es aussi né avec ça et ça ne change pas non plus. Alors, c'est pour ça que la biologie doit être part d'une discussion de genre. C'est vrai que comment tu te comportes comme homme et femme est très influencé par la culture, et je crois aussi chez d'autres primates, pas seulement chez nous. La culture a une grande influence, mais l'identité lui-même n'est pas tellement influencée par la culture.
Alors, c'est quoi les principales caractéristiques des identités de genre pour les femelles et puis ensuite pour les mâles?
Oui. Je ne crois pas que c'est une caractéristique qu'on peut exprimer en comportement, par exemple. Tu es né, imagine, avec une identité mâle. Ça veut dire que tu vas regarder les hommes autour de toi comme modèle. Tu vas les prendre pour auto-socialisation. Tu imites les hommes. Et quand tu es né avec une identité femelle, Tu imites ta mère et d'autres femmes ou des princesses que tu vois dans une animation et tout ça. Et cette auto-socialisation est très importante, je crois, et on le voit aussi chez d'autres primates, tu peux parler de ça. Et fait que tu deviens un homme comme les hommes autour de toi et une femme comme les femmes autour de toi. Ça, c'est le côté culturel. Si tu serais dans une autre culture où les femmes se comportent différemment, tu ferais ça. Et ça, c'est le côté culturel. Et cette auto-socialisation est très importante parce que les gens pensent souvent qu'eux, ils socialisent leurs enfants. Ils pensent que c'est nous qui choisissons le jouet, nous qui transmettons nos idées. Moi, je pense que les enfants, ils sont très bien observateurs et ils observent les gens et c'est ça qu'ils apprennent.
Et dans le livre, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, vous dites que imiter son genre, ça active les centres de récompense du cerveau.
Oui.
Donc en fait, ce que vous décrivez, c'est on le fait aussi parce que biologiquement, on est construit pour imiter son genre.
Oui, ça c'est une interaction biologique culturelle. Dans un sens, tu es né avec une certaine identité et tu es né avec une tendance d'imiter ceux qui ont la même identité. Et pour les enfants transgenres, c'est ceux qui sont opposites. Et alors, tu es né avec certaines tendances, mais c'est l'environnement culturel qui fait quel côté tu vas avec ton comportement. Cette interaction biologie et culture et environnement est très connue dans la biologie. On voit ça, par exemple, sur les canards. Ça s'appelle imprinting. Je ne sais pas qu'est-ce que le mot français pour ça, mais peut-être...
Je ne sais pas.
Oui, un jeune canard suit sa mère et s'identifie comme un canard. Mais il peut aussi suivre un homme. Et ça c'est fait par des zoologues et le petit canard suit un homme et ils s'identifient comme un homme. Et ça, c'est un processus aussi. C'est la biologie qui fait qu'eux, ils ont tendance de s'imprimer sur un certain adulte. Et c'est l'environnement qui décide qu'est-ce qu'ils vont être. Et je crois aussi, pour les genres, c'est un peu pareil. On est préprogrammé avec une certaine identité et une certaine tendance de suivre certains modèles. Mais ça dépend de l'environnement, qu'est-ce qu'on va faire avec ça.
Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a un exemple que vous prenez sur les éléphants. Quand il manque un adulte mâle, ça peut créer des problèmes énormes. Vous pouvez parler de cet exemple parce que je trouve ça hyper intéressant parce qu'on retrouve ça aussi chez les humains. C'est-à-dire, on sait que beaucoup d'hommes qui se retrouvent en prison, c'est souvent parce qu'ils ont manqué de leur père. Leur père est absent.
Oui.
Mais prendre l'exemple des éléphants, je trouve ça hyper intéressant.
Oui, les éléphants, malheureusement, à cause de chasse d'ivoire, il y a les plus grosses mâles qui sont tués. Et le résultat, c'est que les femelles sont là et les jeunes mâles sont là, mais pas de modèle pour les jeunes mâles. Et en plus, les mâles adultes, ils ont même s'ils font rien, juste par être là, ils inhibent le comportement des jeunes mâles. Dans une des parcs africains où il y avait beaucoup de problèmes de jeunes mâles éléphants qui attaquaient des femelles ou d'autres espèces comme des rhinocéros, les jeunes mâles éléphants, ils ont tué beaucoup de choses. Ils ont transporté des mâles adultes, de gros mâles éléphants, et mis dans le troupe là, et tout de suite le comportement des jeunes mâles est changé. Tout de suite, les mâles vieux, ils n'ont rien fait. Juste par être là, ça a changé le comportement. Et ça donne un certain parallèle avec les familles humaines, je crois. On a une certaine évidence que hormonalement, les filles et les garçons changent s'il y a un père adulte, un homme adulte dans la famille. Par exemple, les filles, ça ralentit leur développement de menstruation et tout ça. C'est un an ou deux ans plus tard que ça arrive, quand il y a un homme dans la maison. C'est incroyable, cet effet. Et c'est un effet juste par la présence d'un homme adulte qui est un peu intimidant, je crois, pour les deux.
On va parler de plein de sujets. Un des premiers sujets, parce que vous avez parlé tout à l'heure des jouets, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'il y a effectivement cette discussion sur les jouets genrés pour les enfants. Et ce que vous décrivez pour les primates, c'est que assez naturellement, si je peux utiliser cette expression, les primates mâles vont vers des jouets plutôt actifs, on va dire, et les primates femelles vont plutôt vers des bébés. Est-ce que vous pourriez parler de ça ? C'est hyper intéressant.
Oui. Quand dans un groupe de primates, une femelle arrive avec un jeune bébé... Tout de suite, les jeunes femelles veulent le toucher. Ils entourent cette mère-là. Et les jeunes mâles ne sont pas tellement intéressés. Et les jeunes femelles veulent toucher, garder le bébé. Quand ils sont un peu plus vieux, ils deviennent des babysitters. Et ils ont un intérêt énorme dans des bébés. Quand on donne des jouets aux primates, c'était fait avec des groupes de monkeys, où ils donnent des poupées ou des voitures ou des ballons, c'est les jeunes femelles qui prennent les poupées, qui gardent les poupées sur eux, sur leur dos, sur leur ventre, et gardent comme si c'est un bébé. Et comme ça, ils apprennent comment être mère. Et dans la nature, on a observé que les jeunes femelles chimpanzés, ils prennent un bout de bois ou une pierre et les gardent sur leur dos, sur leur ventre, et comme un bébé et comme une poupée. Et cet intérêt, on ne trouve pas tellement chez les mâles. Les mâles, plutôt, sont plus curieux. Ils veulent ouvrir une poupée pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est ça qu'ils font. Mais ils n'ont pas une tendance de soigner une poupée comme si c'est un bébé. Et cet apprentissage de qualité de mère, c'est très important pour les jeunes femelles parce qu'ils ne sont pas nés avec la capacité de soigner un bébé. C'est très compliqué. Le travail de mère, c'est très compliqué. Et aussi, chez les gens, ça s'apprend. Il y a même des cours qu'on peut suivre pour être mère.
Bien sûr.
C'est important. Parce que, et on parle souvent d'instinct maternel. Le seul côté instinct, c'est que je crois qu'ils sont attirés par les bébés et tout le reste, il faut qu'ils apprennent. Et pour les mâles, là, je trouve plus dur à expliquer parce que les jeunes mâles, quand on donne des jouets, ils jouent avec des voitures ou des ballons, des choses comme ça, aussi chez les primates. Et ça, je ne comprends pas tellement parce que qu'est-ce qu'ils ont avec des voitures? Ce n'est pas un truc naturel pour eux. Mais on pense que c'est peut-être à faire avec leur niveau d'énergie, qui est souvent plus haut chez les jeunes mâles que chez les jeunes femelles. Ça s'est trouvé aussi chez l'homme. Quand on mesure la quantité de mouvement et de courir de filles et de garçons, les garçons courent beaucoup plus, ils ont beaucoup plus d'énergie que les filles. Et peut-être le choix de jouets pour les primates, c'est lié à ça. Ils veulent des objets qui bougent, peut-être, parce qu'eux, ils bougent beaucoup. C'est possible.
Donc en fait, ce que vous dites, c'est que l'instinct maternel, ça n'existe pas vraiment. Mm-hmm. Il y a simplement une attirance vers mm-hmm. les bébés, c'est ça?
Oui, parce qu'il faut qu'ils apprennent comment prendre soin d'un petit. Par exemple, si tu as un groupe de gorilles ou chimpanzés, et il y a une femelle qui est enceinte, et c'est la première femelle dans tout le groupe, on sait que ça ne va pas aller bien. Les os, ils savent que ça ne va pas aller bien. Et souvent, ils amènent une femme qui va allaiter son bébé humain devant eux pour que le gorille voit comment ça se fait. Parce qu'il faut qu'ils apprennent, par exemple. Et ça, c'est si important que toute l'activité des jeunes femelles avec des poupées et des bébés des autres... C'est important pour élever leurs propres enfants, oui.
Et alors, pour nuancer le propos, ce que vous dites aussi, c'est que quand il y a un bébé et qu'il n'y a que des mâles, en fait, le mâle, il prend soin du bébé malgré tout. C'est-à-dire qu'en fait, il le fait pas, c'est pas une attirance naturelle, mais néanmoins, il va s'occuper du bébé.
Oui, ça se trouve remarquable. Il y a certaines observations dans la nature. Ou chez le chimpanzé, par exemple, mais aussi chez le bonobo, où une mère meurt. Et il y a un orphelin. Et les femelles, ils ne sont pas capables d'adopter. Les mères femelles, ils ne peuvent pas adopter un orphelin parce qu'ils ont leur propre bébé, leur propre enfant. Ils n'ont pas de temps pour un autre bébé. Et alors, ils ne font pas. C'est les mâles qui le font. Et ça, c'est étonnant parce que les mâles chimpanzés et les mâles bonobos, ils font généralement rien. Ils peuvent protéger un bébé, mais autrement, ils font pas grand-chose. Et c'est que les femelles qui font le travail d'élever les petits. Et là, on voit dans ce cas-là que, par exemple, un mâle alpha qui prend un orphelin, et pas seulement pour 2 jours, il le prend pendant 3 ans, 4 ans. Il le porte sur son dos, il le garde avec lui, il le soigne, il protège, il attend. Quand il voyage, il attend pour le petit. Et c'est incroyable qu'ils ont cette capacité qui normalement n'est pas exprimée. Et moi, je crois que les hommes humains, ils ont encore plus de cette capacité parce que nous, on a évolué de famille nucléaire, on a évolué de famille homme, femme, enfant. Et je suis sûr que nos hommes, ils ont plus, encore plus cette tendance-là. Et il y a des études qui étaient faites en Israël, les études neuroscientifiques, qui ont montré qu'un homme qui est the primary caretaker, comment dire
celui qui prend soin, le premier.
Oui. Des enfants, ça arrive chez les couples homosexuels, ça arrive dans d'autres situations qu'un homme qui a perdu la mère ou tout ça. Si un homme fait ça, son cerveau change. Son amygdala, qui est le centre émotionnel.
Amygdale, je pense.
Hein?
Non, amygdale, peut-être. Oui, non, peut-être, je ne sais plus.
Oui. Il devient plus grand. Il y a plus d'oxytocine dans le cerveau, qui est le hormone qui est très. Pour le bonding, comment dire, pour le lien social. Et ce cerveau devient plus maternel. Il y a une plasticité dans le cerveau qu'on ignore souvent, mais c'est très important. Alors, le mâle, c'est intéressant. Les gens disent quelquefois, le travail avec les enfants, les soigner, c'est pour les femelles, pour la femme de faire ça, parce que c'est biologique et tout ça. C'est vrai que les gestations et les parturitions et l'allaitage, comment dire, le nursing, oui, ça c'est une chose dès au début qui pour la femme, parce que les hommes peuvent pas faire ça, mais pour le reste, la capacité de soigner les petits est complètement présente chez le mâle.
Vous avez utilisé le mot de mâle alpha, vous en avez fait un TED Talk. J'ai appris énormément de choses sur ce qu'est un mâle alpha. J'aimerais bien qu'on en parle. Et surtout, j'ai découvert qu'il y avait aussi des femelles alpha. En fait, on parle beaucoup des mâles alpha et c'est un peu de votre faute, quelque part. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi c'est de votre faute? Mais en fait, il y a surtout des femelles alpha. Enfin, pas surtout, mais il y a aussi des femelles alpha. Et surtout, la compréhension qu'on a de ce qu'est un alpha est complètement à côté de la plaque.
Oui, c'est dommage que le mot alpha ait eu une connotation négative presque. Un mâle alpha, c'est un mâle qui est très dominant, dictateur, qui montre à tout le monde qu'il est plus fort et tout ça. Et c'est pour ça que ça a eu un ton négatif, je trouve. Mais le mâle alpha que moi j'ai connu, bien sûr, il y a aussi certains types qui sont comme ça, qui sont des dictateurs et ils ne sont pas très populaires, il faut dire, dans le groupe, mais ça existe quelquefois. Mais la plupart que j'ai connus, ils gardent la paix dans le groupe, ils protègent les faibles, ils protègent les femelles contre les mâles ou les jeunes contre les adultes. Et ils peuvent devenir extrêmement populaires parce qu'ils donnent une certaine qualité de sécurité dans le groupe. Et ça, c'est le mâle alpha que je connais le mieux. Et aussi, il y a aussi toujours une femelle alpha. Et alpha, juste veut dire le plus haut dans la hiérarchie. C'est tout ce que ça veut dire. Alpha, ce n'est pas un type de personnalité. Et les femelles alpha, puisque tous les femelles primates, ils ont des hiérarchies, il y a toujours une femelle alpha. Et souvent, le femelle alpha peut être extrêmement beaucoup de pouvoir. Et c'est partiellement parce qu'il reste alpha plus longtemps que le mâle. Le mâle, il reste alpha peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça dépend. Et après ça, leur position est prise par un plus jeune mâle qui est plus fort. Chez les femelles, l'âge, c'est en fait positif. L'âge est bien pour eux. Et par exemple, Mama, la femelle alpha que j'ai connue dans une colonie de chimpanzés, était alpha pendant 40 ans. Elle pouvait presque plus marcher, elle était encore femelle alpha. Et ça n'arriverait jamais avec des mâles, mais elle avait une influence énorme. Et dans la nature aussi, on voit des femelles alpha chez les chimpanzés qui sont importantes, mais chez les bonobos, qui est aussi important pour la discussion, je trouve. Chez les bonobos, les femelles alpha sont alpha sur tout le monde, parce que les femelles sont dominantes sur les mâles. Et alors, l'idée que leadership, c'est un truc pour les mâles et pas pour les femelles, c'est pas vrai du tout. On trouve plein de leadership femelle chez les primates.
Et ce que vous dites aussi, c'est la manière dont les femelles gèrent le pouvoir est très différente, parce qu'en fait, c'est un pouvoir qui est partagé, c'est ça?
Chez les bonobos, les femelles alpha est soutenue par d'autres femelles. Souvent un peu plus vieux que le reste, parce que l'âge est un plus pour les femelles. Et c'est pas forcément partagé. La dominance femelle n'est pas forcément plus gentille. J'ai eu des discussions récemment sur le leadership femme dans notre espèce. Et ça qui manquait dans la discussion, c'est l'assertivité des femmes. Parce qu'on ne peut pas être le plus dominant sans occasionnellement attaquer ou renforcer ta position. Si moi je suis une femelle alpha et un autre, dans une business, comment dire, une corporation.
Une entreprise. Une
entreprise, oui. Mm-hmm. Si moi je suis de boss et toi tu es une femme qui me critique et qui dit toujours des choses contre moi, à un certain moment il faut que je fasse quelque chose. Et cette assertivité qui est présente chez toutes les femelles alpha que je connais chez les primates, peut-être souvent ignorée chez l'homme parce que les gens ne veulent pas parler de ça, mais je suis sûr qu'il faut qu'ils renforcent leur position, comme les hommes font aussi. Les hommes, ils sont moins timides là-dessus, mais ils font pareil.
Et alors, vous disiez que chez les bonobos, c'est des sociétés qui sont plutôt matriarcales. Mm-hmm. Et pourtant, il me semble, mais c'est vous qui allez me dire, que les bonobos, ce sont les primates les plus proches des humains. Mm. Est-ce que c'est pas une anomalie de l'histoire, quelque part, que chez les humains, on soit dans des sociétés qui soient purement patriarcales? Si les primates qui nous ressemblent le plus sont dans des sociétés matriarcales?
Les bonobos sont génétiquement aussi proches de nous que les chimpanzés.
D'accord.
C'est pas différent. Mais on peut pas discuter l'homme seulement avec le bonobo. Il faut toujours... C'est intéressant, en fait, qu'on a deux espèces si proches qui sont si différentes l'une de l'autre. Et... c'est le bonobo matriarcal, c'est pas exactement le mot, parce que matriarcal, ça veut souvent dire, par exemple, les éléphants sont matriarcales. Il y a une femelle avec ses filles qui sont devenues adultes et les grandes filles. Il y a des systèmes matriarcales qui sont des liens de familiales. Si le bonobo, les femelles ne sont pas liées, ils viennent d'autres groupes, parce que la migration c'est un truc femelle chez le bonobo, pas de mâle reste dans le groupe, les femelles partent. Alors ils sont pas forcément matriarcales, mais ils sont female centric, en anglais on peut dire gynarchy. Ça existe en français,
gynarchy? J'ai jamais entendu parler.
C'est contrôlé par les femelles, ça,
d'accord.
Encore, ce n'est pas forcément plus gentil comme système, parce que la femelle alpha, elle renforce sa position. Elle mord quelquefois d'autres femelles, et aussi des mâles, mais d'autres femelles, pour renforcer sa position. Alors, la hiérarchie est toujours un système un peu... un mélange de pacifique, parce que la hiérarchie réduit les agressions par faire sa... predictable, qui est dominant sur qui, mais il est enforcé et quelquefois violentement. Oui.
Et d'ailleurs, vous commencez le livre, et je voulais savoir pourquoi, par la violence des femelles et la violence des femmes. Vous dites, en fait, on n'en parle pas assez, mais les femelles aussi sont violentes.
Oui, quand ils protègent leurs petits. Pour les mâles, le moment le plus violent, c'est quand ils ont des compétitions avec d'autres mâles. Et c'est là qu'ils peuvent devenir très violents parce qu'ils sont extrêmement motivés d'avoir une autre position dans la hiérarchie. Les femelles, le moment le plus violent qu'on voit, c'est quand leur petit est attaqué. C'est vrai pour presque toutes les mammifères. On connaît ça très bien des ours, des lions, de toutes sortes d'animaux, des éléphants. Par exemple, quand les gens qui chassaient autrefois des éléphants dans la forêt de Thaïlande et India, ils avaient très peur d'isoler un petit éléphant parce que c'est là le moment le plus dangereux pour eux. C'est plus dangereux que d'isoler un jeune éléphant et être attaqué par la mère qu'être attaqué par un éléphant mâle. Ils avaient très peur de cette situation-là. Oui, c'est très, ils sont très protecteurs, et je crois que chez l'homme aussi. Et ça, c'est une situation qui peut donner de la violence femelle, oui.
Vous parlez aussi de sororité, un peu. Mm-hmm. Ça existe chez les bonobos, donc cette sororité. Est-ce que ça existe aussi chez les chimpanzés? Parce que chez les humains, mm-hmm. La sororité, elle existe, mais pas tant que ça, finalement. Étonnamment.
Oui, chez les chimpanzés, on le trouve quand ils ont une situation où les femelles sont ensemble. En captivité, par exemple, moi j'ai travaillé beaucoup avec des colonies captives de chimpanzés, les femelles se mettent ensemble pour se défendre entre eux, contre les mâles. Les femelles ne sont pas extrêmement coopératives, je trouve, mais dès qu'il y a un mâle qui fait un rassemblement, comment dire, harcèlement.
Ah, okay. Harcèlement.
Harcèlement sexuel vers une femelle. Là, les femelles, ils ont une autre opinion et tout de suite, ils deviennent coopératifs et ils peuvent chasser cette mâle-là et peut-être l'attaquer aussi. Alors, c'est pour ça qu'en captivité, je n'ai jamais vu un viol entre chimpanzés, mâle-femelle. Et les femelles, ils ont beaucoup de pouvoir dans le groupe. Quand on va dans la nature, les chimpanzés sont souvent distribués sur leur forêt parce qu'il n'y a pas assez de nourriture pour eux de voyager ensemble. C'est pour ça qu'ils voyagent séparément. Et tout de suite, ça dilue les sororités des femelles. Ils sont plus solitaires et quand ils sont attaqués par un mâle, ils n'ont pas toujours de défense. Et ça change tout les arrangements entre mâle et femelle. Il y a certains groupes de chimpanzés dans l'Afrique, West Africa, comment dire?
L'Afrique de l'Ouest.
De l'Ouest, parce que l'Ouest et l'Ouest, pour moi, c'est un peu... je trouve dur à prononcer. West Africa, les groupes sont plus cohésifs et le résultat, c'est que les femelles ont plus de pouvoir parce qu'ils sont plus ensemble. Ils s'aident plus entre eux. Et les bonobos, bien sûr, c'est un autre extrême. Si les bonobos, les femelles sont si souvent ensemble et ils restent toujours ensemble... et qu'ils sont devenus dominants sur le mâle. Oui.
Et vous disiez, le viol, ça n'existe pas chez les singes de manière générale, mais chez les chimpanzés ni les bonobos. Donc c'est une invention de l'homme, quelque part, le viol?
Le viol est extrêmement rare chez les chimpanzés, complètement absent chez le bonobo. On trouve ça chez les orang-outans. C'est la seule espèce primate, je crois, où c'est assez commun. C'est les jeunes mâles qui font le viol, pas les mâles complètement développés. Chez les primates, je dirais que ce n'est pas un comportement typique du tout. Chez d'autres espèces, on trouve un peu de viol chez les canards, les grenouilles, certains insectes. Oui, mais ce n'est pas un comportement qu'on trouve partout dans le monde animal. Oui, chez l'homme, c'est assez commun, le viol. Il y a en fait deux contextes. Il y a le contexte familial, qui je crois que c'est le plus commun. Et il y a le contexte de guerre, qu'on voit maintenant en Ukraine, on voit ça. C'est un contexte complètement différent, je pense. Le contexte familial, c'est facilité par notre mode de vie, où il y a des familles qui sont dans une maison... Et c'est là qu'un homme peut contrôler une femme. Parce que chez les primates, ça n'existe pas du tout. Si un mâle est agressif avec une femelle, il y a souvent d'autres femelles autour qui peuvent intervenir. Et aussi les mâles qui peuvent intervenir.
Ça, le mâle alpha, en général, il protège aussi la femelle qui potentiellement se fait attaquer.
Les mâles alpha, ils protègent les femelles en général, oui.
Il y a un autre point que vous... En fait, on dit beaucoup ça, et en même temps, vous le déconstruisez dans le livre, et je trouvais ça intéressant, de dire que les femelles sont plus petites, parce qu'en fait, elles ont que les restes... c'est une croyance. En tout cas, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Et vous dites, finalement, c'est pas exactement vrai, il me semble. Donc, qu'est-ce qui explique la différence de taille entre un mâle et une femelle?
Oui, j'ai entendu cette théorie populaire en France, mais seulement en France, je crois, que la nourriture, la France parle toujours de la bouffe de toute façon, que la nourriture décide qui est grand et qui petit. Ça, je trouve bizarre, parce qu'on sait des études qui étaient faites sur qu'est-ce qu'on fait avec la nourriture quand on est adolescent. Quand on est adolescent, le garçon, il mange et ça se traduit en os et muscles. Et la femelle, la fille, il mange et ça se traduit souvent, vous savez, en fat deposits. Qu'est-ce que ça dit?
C'est un dépôt de gras.
Oui, oui. Oui, parce qu'il y a une distribution différemment, et alors ils ne poussent pas si long que les garçons qui investent leur nourriture différemment et qui mangent plus aussi, une fois et demie plus que les filles. Moi, je suis d'une famille de 6 garçons, on a beaucoup mangé, on peut dire, quand j'étais jeune, et ce n'était pas parce que ma mère voulait qu'on était si grand, je crois. Mais ça, c'est une théorie, j'ai entendu ça. Ça explique bien sûr pas pourquoi chez d'autres primates, la plupart, les mâles sont plus grands que les femelles, parce qu'ils ne sont pas influencés par la même culture de nourriture et tout ça. Non, je crois que c'est un truc naturel, que les mâles sont plus grands que les femelles. Et les études qui étaient faites là-dessus, qui ont regardé toute la mammifère, je crois, pas seulement les primates, et ils disent que la grandeur des mâles stimulé par la compétition entre mâles. Alors, dès qu'il y a plus de compétition mâle-mâle, le mâle devient plus grand. Alors, par exemple, le gorille, le mâle est deux fois plus grand que le femelle. C'est extrêmement fort parce qu'il y a une compétition extrêmement forte entre mâles. Les mâles ne sont pas plus grands que les femelles pour dominer les femelles parce que ça, ce n'est pas leur but. Ça ne donne pas grand-chose pour le mâle d'être dominant sur les femelles, ça ne donne pas un grand avantage. C'est surtout pour être mieux dans la compétition avec d'autres mâles. Et chez notre espèce, le dimorphisme sexuel est assez bas, dans le sens que les mâles sont un peu plus grands que les femelles dans notre espèce. Et dans le chimpanzé et le bonobo, c'est assez bas, c'est assez, comment dire, c'est pas si grand que dans beaucoup d'autres espèces. Par exemple, si le babouin, le gorille, les orang-outans, les différences sont beaucoup plus grandes que chez nous.
Vous dites aussi que tout commence par les émotions et qu'en fait les bonobos, les chimpanzés, donc ceux qui nous ressemblent le plus, ont des émotions très fortes. Vous prenez l'exemple du bombardement de Munich. Déjà, peut-être, ça peut être intéressant d'avoir cet exemple du bombardement de Munich. Et après, j'aurais une question autour du... Parce qu'il me semble que vous dites que les femelles ont un accès plus facile aux émotions. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, elles ont puisque tout est centré sur les émotions, en fait, elles ont un avantage énorme par rapport au mâle, quelque part.
Bon, les femelles ne sont pas plus émotionnelles que le mâle, je crois. On dit ça souvent dans notre espèce, que les femmes sont plus émotionnelles. Moi, je ne suis pas sûr. Si on regarde les hommes pendant un jeu de football, par exemple, ils sont assez émotionnels, je trouve. les émotions sont exprimées différemment entre mâles et femelles. Et ce sont souvent des règles culturelles. Qu'un homme ne doit pas pleurer, par exemple. On apprend ça de très jeune, il ne faut pas pleurer. Et il ne faut pas montrer sa vulnérabilité. Et on trouve ça aussi chez les primates. Les mâles, ils cachent leur vulnérabilité parce qu'il y a, de compétition avec d'autres mâles. Ce n'est pas utile de montrer que tu es faible ou que tu es injuré comme ça.
Blessé,
oui. Mais moi, je crois que les hommes et les femmes, ils ont à peu près la même émotion, mais ils ont appris de régler et d'exprimer ça différemment.
Mmh. Ouais. Mmh. Et vous pourriez donner l'exemple de ce qui s'est passé à Munich pendant le bombardement et de...
Ah là, oui, ça c'était un zoo à Munich qui avait des bonobos et des chimpanzés et des gorilles. Et la ville était bombée pendant la guerre mondiale, à la fin de la guerre mondiale. Et ça faisait tellement de bruit que le chimpanzé et la gorille, ils ont survécu, mais le bonobo était mort du bruit. De heart attack, sans doute. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu. Oui, oui. C'est pas comment, mais ils sont plus sensibles. Oui, ils étaient plus affectés par ça.
Donc il y a vraiment cette idée que les émotions, c'est pas juste quelque chose neutre, ça peut créer des choses dramatiques comme des crises cardiaques en l'occurrence aussi.
Oui,
chez
les émotions sont toujours en interaction avec la cognition. Les gens pensent qu'on peut séparer les deux, la rationalité et les émotions, et bien sûr les hommes en philosophie occidentale, ils ont souvent fait comme si notre esprit est indépendant de notre corps. Ils ont fait comme si l'esprit était quelque chose de séparé de notre biologie et notre corps. Et c'est pour ça qu'ils méprisaient les animaux qu'ils trouvent bêtes, les femmes qu'ils trouvent trop émotionnelles. Ils avaient cette illusion que leur esprit était indépendant de tout ça. Et c'est pour ça aussi qu'on trouve... il y a des hommes qui veulent, comment dire, cryo-freeze, qui veulent...
Dites la phrase, même en anglais.
Freezing their brains.
Freezing the brain, like...
Yeah. Enlever, quand tu es mort...
Ah, oui,
on
d'accord.
Enlève ton cerveau.
Ah oui.
On le met dans un freezer.
Ok. Oui. Je comprends.
Et ils pensent que plus tard on peut revivre cette. Leur esprit revient
ouais,
après.
Bien sûr.
Ils pensent que c'est possible. Moi je pense pas que c'est possible. Mais ils pensent que leur esprit est si important et si indépendant du corps qu'on peut le préserver après leur mort. C'est seulement 99% de ce cas-là.
90%.
Oui, oui.
99 même.
Oui, qui fait ça sont des hommes. Ce n'est pas les femmes qui font ça. Oui, cette illusion est présente dans la philosophie occidentale que l'esprit, c'est cartésien en fait, l'esprit est indépendant du corps. Et c'est un truc très masculin, je crois. Et c'est lié au fait que. Aussi, les hommes, ils n'ont pas de cycle hormonal. Alors, c'est facile de penser que ton corps n'est pas très important. Ils ne tombent pas enceintes. Et tout ça fait que les hommes sont plus orientés vers leur esprit et évitent leur corps, souvent. Oui.
Vous avez un chapitre entier sur le fait qu'on a exagéré le patriarcat chez les primates.
Ah oui, oui.
Pourquoi vous dites ça et qu'est-ce que vous voulez dire par là en fait? Pourquoi vous dites on a exagéré le patriarcat?
Ça a commencé avec une étude qui était faite il y a 100 ans dans le zoo de Londres. Alors c'était un scientifique qui était très important en Angleterre à l'époque qui avait mis des babouins ensemble dans le mauvais sex ratio. Il avait mis 95 mâles avec 5 femelles, je crois, dans un enclos, dans le zoo. Et les mâles, ils se sont tués entre eux, ils ont aussi tué les femelles, et à la fin, deux tiers de toute cette population étaient morts. Et après, il a écrit des livres là-dessus en disant que oui, les mâles sont très dominants de femelles, ils se battent entre eux, la violence est énorme, les femelles, ils n'ont rien à dire dans une société de primates, c'est complètement patriarcal, et il a insisté là-dessus. Et après ça, toutes les gens qui écrivaient des livres populaires sur les primates, ils répétaient cette histoire-là qui était basée sur une expérience extrêmement mal foutue. C'est comme ça que c'est devenu l'histoire que chez les primates, les mâles sont dominants et c'est très patriarcal. Après ça, on a vu que même pour les babouins sont assez loin de nous. Et ils ont un dimorphisme sexuel est très important. Que même chez les babouins, ça ne marche pas comme ça. On sait ça des études dans la nature. Mais certainement, notre plus proche de bonobos et de chimpanzés sont très différents de ça. Alors, cette idée de société patriarcale, dans la plupart des primates, les femelles, c'est le cœur de société, c'est femelle. C'est un peu comme chez les lions. Si on regarde les lions superficiellement, bien sûr, on est impressionné par le grand mâle et on pense que eux, c'est eux qui font le cœur de société. Mais on sait que chez les lions, c'est les femelles qui chassent, c'est une société femelle et les mâles viennent et après quelques années, ils sont remplacés par d'autres mâles. Oui, c'est une illusion basée sur la taille peut-être aussi des mâles et chez les bonobos, les chimpanzés, c'est pas du tout pareil. Oui. Mmh.
C'est vrai qu'on parle de sexualité. Y a énormément de choses à dire. D'abord sur les choix sexuels, ce que vous dites, c'est que l'homosexualité existe totalement dans la nature, ce qui peut aller à l'encontre de plein de croyances, en tout cas de certaines personnes qui pensent que l'homosexualité, c'est pas naturel. Est-ce que vous pourriez nous parler d'homosexualité déjà ?
Oui, le comportement homosexuel, on trouve chez beaucoup des animaux, pas seulement les primates. Je crois que chez tous les animaux, on trouve au moins un peu de ça, le comportement homosexuel. Il y a certaines espèces, comme par exemple le bonobo, je ne fais même pas la distinction entre les deux. Je dis qu'ils sont bisexuels parce que je ne vois pas qu'ils ont tellement de contacts sexuels avec tout le monde que je ne vois pas de faire la distinction entre hétérosexuel et homosexuel. Chez beaucoup d'autres primates, comme les chimpanzés, c'est plutôt, on voit le comportement homosexuel régulièrement. Et il y a certains individus qui le font plus et certains qui le font moins. On ne peut pas dire forcément qu'il y a des individus homosexuels dans le sens qu'ils sont exclusivement homosexuels, mais je dirais aussi chez l'homme, ce n'est pas la majorité. Je crois que homosexuel exclusif, c'est seulement un demi-pourcent de gens. Et on sait que l'homosexualité en général, c'est peut-être 4%, 5% des gens. Alors, c'est beaucoup plus important. Oui, on trouve ça chez beaucoup des animaux. La connaissance de ça était souvent supprimée. Plus maintenant. Je crois qu'on parle ouvertement maintenant de ça, mais c'était souvent supprimé parce que l'homosexualité est un grand problème dans la société. Pour moi, c'est un peu bizarre parce que je viens de la Hollande. Où l'amour homosexuel était légal pendant plus que 200 ans. Alors, en Hollande, on n'a jamais fait beaucoup de problèmes là-dessus. Mais quand j'arrivais en États-Unis, pour immigrer aux États-Unis, il fallait que je signe un papier qui dit que je ne suis pas un communiste et que je ne suis pas homosexuel. Mmh. Moi, j'étais complètement étonné. Pas forcément par le communisme, mais par l'homosexualité. Oui.
Et les transgenres, est-ce que c'est des choses qui existent aussi dans la nature, chez les primates?
Oui, je pense que c'est possible. C'est très dur de définir ça pour les animaux parce qu'on ne peut pas demander des identités. J'ai décrit dans mon livre une femelle chimpanzée qui se comportait comme un mâle. Elle était de très jeune, elle était déjà un peu plus mâle, masculin que d'autres femelles. Elle aimait par exemple faire de petits bagarres et, avec moi ou avec des mâles chimpanzés. Et plus tard, elle développait des caractéristiques un peu plus mâles comme la tête, les poils, les épaules. Et de loin, on dirait que c'était un mâle. Elle associait beaucoup avec des mâles. C'est très bien possible qu'elle identifiait comme mâle, mais Je ne peux pas savoir ça. Mais il y a beaucoup d'individus, chez les primates, et j'ai connu dans toutes sortes d'espèces aussi, aussi chez les bonobos, des individus qui sont différents de leur rôle de genre, qui ne sont pas typiques. Et en général, je trouve dommage que dans notre métier primatologue, on a ignoré ce genre d'individus. Comme les sociétés parlent aussi souvent de mâles typiques et de femelles typiques. Et dans notre boulot, on a fait la même chose. On parle de mâles typiques, femelles typiques. Mais il y a toujours 1 sur 10 ou 1 sur 20 qui est différent. Et on trouve aussi des mâles, par exemple, qui ne sont pas intéressés dans la politique mâle. Ils ne sont pas intéressés dans la compétition avec d'autres mâles. Ils ne le font pas. Et il évite ça. Il peut avoir une vie très heureuse et tranquille, je crois, mais ils ne sont pas intéressés à être mâle alpha. Et on trouve des femelles comme Donna qui sont plutôt masculines.
Et vous pouvez nous parler de la sexualité féminine, en particulier féminine, des femelles, en particulier de la sexualité qui soit entreprenante. Parce qu'en fait, c'est vrai que chez les humains, on a cette culture, en tout cas dans les pays occidentaux, où la sexualité des femmes, elle n'est pas entreprenante. Mmh. Et en fait, ce que vous dites, c'est, il me semble, que chez les primates, ou en tout cas certains primates, c'est très différent.
Oui, ça a commencé dans la biologie avec le développement de l'ADN. Avant ça, on avait cette illusion victorienne, sans doute, que le mâle veut le sexe, la femelle, ils acceptent le sexe. Ils ne cherchent pas. Et tout le monde était très content avec cette théorie-là, peut-être surtout des hommes, mais tout le monde était très content. Jusqu'au moment qu'on commence à tester les œufs des petits oiseaux, les oiseaux qui sont monogames et qui ont des œufs, on teste l'ADN et on trouve que pas tous les œufs étaient fertilisés par le mâle du père et du couple, c'est ça. Et on a trouvé ça dans beaucoup des espèces. Au début, les réactions des biologistes étaient « Oh, peut-être les femelles sont violées par d'autres mâles qui viennent visiter. » Mais maintenant, on sait par les études que les femelles sont très entrepreneurs. Ils quittent leur territoire pour rencontrer d'autres mâles. Et ils reviennent. Et peut-être c'est après coup, on a des théories, bien sûr, pourquoi ils font ça. C'est peut-être très avantageux pour eux d'avoir dans leurs 5 œufs quelques-unes qui viennent d'un autre mâle, qui sont fertilisées par un autre mâle. C'est peut-être avantageux. Et alors, c'est commencé avec les oiseaux, maintenant avec les primates. On a la même histoire. Quand on regarde un groupe de singes, n'importe lequel, on voit surtout la copulation par le mâle alpha. Et bien sûr, autrefois, on a dit, ça veut dire que la plupart des bébés est fait par cette mâle-là. Et c'est pour ça qu'il est dominant, parce qu'il est mieux, et il copule plus que les autres. Mais quand on a commencé à tester la paternité des petits, on a trouvé que oui, le mâle alpha, il a plus de bébés que des autres, mais il n'est pas le seul. Il y a plein d'autres mâles qui reproduisent dans un groupe. Ça veut dire que leurs copulations ne sont pas visibles. Ils ont fait la nuit ou derrière des bruches, et ils ne sont pas visibles à nous. Et là aussi, on a découvert que les femelles sont très entrepreneurs. Ils arrangent des copulations avec d'autres mâles. Ils ne savent pas tout ce qu'ils préfèrent, le mâle alpha. Ils peuvent préférer d'autres mâles. Et alors maintenant, on a, et aussi pour l'homme, je dirais, notre espèce, il y a toutes sortes d'études maintenant qui montrent que la sexualité féminine est assez entreprenant. Et on a plus tellement cette vue-là, au moins pas chez les gens qui connaissent cette littérature, parce que dans les sociétés en général, je crois encore que les gens croient que les hommes veulent le sexe plus que les femmes. Oui, ils croient encore tout ça, je crois. Mmh. Même si pour les affaires entre hommes et femmes, il y a toujours deux parties. Et c'est pas seulement les hommes. Il y a toujours deux parties. Et c'est coopératif. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens continuent à croire ça, mais ils croient ça, oui.
Mmh. Et alors, comment les femelles font leur choix? Qu'est-ce qui fait qu'elles choisissent? Puisqu'elles sont entreprenantes, donc c'est elles qui choisissent.
Oui.
Comment elles font leur choix?
Oui, c'est souvent, dans les études ADN, on a trouvé que c'est souvent des mâles, ils préfèrent des mâles un peu plus jeunes que l'alpha, qui est souvent un peu plus vieux. Les mâles qui ont, comment dire, un potentiel, qui peuvent devenir plus haut dans la hiérarchie. Alors, c'est des, en anglais, on dit rising males, comment dire ça?
Les mâles en croissance, avec du potentiel.
Oui, oui, c'est ça qu'ils cherchent, en quoi.
Donc, du coup, avec de la force, une certaine taille aussi
Oui, une certaine énergie et ambition et tout ça, oui.
Est-ce qu'on peut dire que, en fait, je trouvais ça intéressant, en particulier sur la sexualité, que l'homme, il va être un loup pour l'homme, c'est-à-dire qu'en fait, il va aller forcément chasser les autres que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette compétition entre mâles, qui n'est pas une compétition pour les femelles, finalement, c'est vraiment une compétition juste entre mâles. Ou est-ce que, à l'inverse, les primates, ils sont plutôt coopératifs?
Moi, je crois que la plupart des animaux sont extrêmement coopératifs. On oublie ça souvent parce que le darwinisme traditionnel parle de struggle for life, il parle de compétition. Mais la compétition est importante, bien sûr, c'est pas qu'on peut l'enlever, mais la coopération, on trouve partout dans les animaux et c'est très développé.
Est-ce que vous pourriez nous parler, juste pour finir, du principe de Bateman?
Oui, Bateman avait ce principe que les mâles, ils ont besoin de beaucoup de partenaires. Ils cherchent beaucoup de partenaires parce que comme ça, ils peuvent avoir plus de petits. La reproduction est stimulée par avoir plus de partenaires. Les femelles, ils n'ont pas besoin de faire ça parce qu'ils peuvent être enceintes seulement une fois. Et chez les primates, souvent avec seulement un bébé. Et alors, pour les femelles, c'est important d'être sélectif, d'avoir le meilleur partenaire et le nombre de partenaires, c'est pas important pour eux. Ça a l'air extrêmement logique. Alors, c'est pour ça que pendant 50 ans, c'était répété partout dans le livre, c'est comme ça que ça marche. Le mâle cherche beaucoup de partenaires, la femelle cherche le meilleur partenaire. Et quand le scientifique, une femme qui s'appelle Paddy Gowaty, un biologiste américain, quand elle a essayé de répéter les expériences avec les fruit flies, c'est quoi?
Fruit flies?
Oui.
Je ne sais pas ce que c'est.
Des petites mouches de fruits.
Ah, d'accord. Ah, ok.
Ça s'appelle comme ça?
Oui, on peut dire ça.
Petite mouche de fruits. Parce que c'était basé sur l'expérience avec cet animal-là. Quand elle a essayé de faire la même expérience avec la même espèce, elle n'a pas trouvé le même résultat. Et alors, elle est devenue sceptique. En plus, on est très sceptique parce qu'on voit que les femelles cherchent beaucoup de partenaires chez beaucoup des espèces. Par exemple, chez les primates, le bonobo, c'est un exemple, mais aussi chez les chimpanzés, les femelles, ils copulent avec beaucoup de mâles différents. On sait que ça ne marche pas comme ils disaient. Et maintenant, il y a tout un groupe de féministes, Darwinian feminists, comment dire, les féministes darwiniens, qui doutent ce principe-là de Bateman et qui disent que ça ne marche pas comme ça, que les femelles sont beaucoup plus entrepreneurs que lui pensait. Et je crois que son principe marche peut-être pour les mâles. C'est vrai que les mâles, ils peuvent stimuler leur reproduction par avoir plus de partenaires. Oui, ça, cet côté, ça marche. Mais son principe ne marche pas pour les femelles.
Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Ce podcast s'appelle Vlan, donc j'aimerais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte.
Claquer la porte.
Ouvrir.
Claquer la porte. contre quelque chose.
Ça peut être contre quelque chose, oui.
Oui, moi je trouve que je peux claquer la porte contre la discussion et souvent sur l'inégalité des genres. Souvent, on dit que le genre doit disparaître, on doit diminuer les genres, enlever les genres, être genre neutral, des choses comme ça. Moi, je pense qu'il faut claquer les portes sur cette discussion-là. Je ne trouve pas grave si les gens veulent diminuer les différences de genre. Moi, je pense qu'on est en train de faire ça, en fait, parce qu'on donne maintenant la même éducation aux garçons et aux filles. Et on est en train de faire ce genre de choses. Mais il faut... notre attention doit être sur l'inégalité. Ça, c'est la porte que j'ai pu ouvrir. Dans le sens que c'est plutôt ce sujet-là qui doit discuter. Les genres sont différents. Peut-être pas si différents ou définis dans la façon qu'on veut, mais les genres vont rester toujours là, je pense. Mais c'est l'inégalité qui est le problème. Et que c'est là qu'il faut travailler dessus.
Parfait. Merci beaucoup, Franz.
Ouais.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message.